Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Chapitre 10. Comment Monsieur Ralph Nickleby pourvut aux besoins de sa nièce et de sa belle-mère. Le surlendemain du départ de Nicolas pour le Yorkshire, Catherine Nickleby était assise dans un vieux fauteuil râpé, perché sur un trône couvert de poussière, dans la chambre de Miss La Creevy. Elle donnait à cette demoiselle une séance pour le portrait convenu. Afin de le mieux réussir, Miss La Creevy avait fait détacher de la porte et monter dans son appartement le cadre de miniature, pour avoir sous les yeux la nuance dont elle voulait embellir le teint de Miss Nickleby. C'était un chair de saumon vif qu'elle avait inventé pour le portrait d'un jeune officier du cadre. Et ce chair de saumon vif était considéré par les amis particuliers et les principaux protecteurs de Miss La Creevy comme une véritable découverte dans son art. Et il ne s'y trompait pas.
Je crois que je viens de l'attraper, dit Miss La Creevy. C'est bien la nuance. Ce sera le plus joli portrait que j'ai jamais fait, certainement.
À coup sûr, dit Catherine en souriant. C'est bien à votre génie tout seul que vous pourrez en faire honneur.
Mais non, je ne vous accorde pas cela, ma chère. Répliqua Miss La Creevy. Le sujet est très joli par lui-même, un très joli sujet, assurément. Je ne veux pas dire que le faire de l'artiste n'y soit pour rien. Pour beaucoup, sans doute.
À la bonne heure, ma chère, dit Miss La Creevy. En général, vous ne vous trompez pas, mais dans ce cas particulier, la nature a fait plus de la moitié des frais.
Oh, que l'art est difficile!
Qu'il doit être difficile, en effet, dit Catherine, charmée de flatter ainsi la passion de sa bonne petite amie.
Vous ne sauriez vous en faire une idée, reprit Miss La Creevy. Ce sont des yeux qu'il faut mettre en lumière à tout prix. C'est un nez qu'il faut dissimuler de toutes ses forces. C'est une tête qu'il faut développer. Ce sont les dents à ôter. Vous ne pouvez vous figurer tout le mal qu'il faut se donner pour faire une petite miniature.
Encore, si les honoraires vous payent richement de vos peines, dit Catherine.
Oh, il s'en faut bien, vraiment, répondit Miss La Creevy. Et encore, les gens sont si difficiles et si exigeants que, 9 fois sur 10, il n'y a pas de plaisir à les peindre. Tantôt, ils viennent vous dire « Oh, Miss La Creevy, pourquoi donc m'avoir fait l'air si sérieux ?» Ou bien « Ah, Miss La Creevy, pourquoi donc m'avoir fait l'air si souriant ?» Ils ne savent pas que c'est l'essence même d'un portrait que l'air sérieux ou riant. Autrement, il n'y a plus de portrait.
« Ah, vraiment ?» dit Catherine en riant.
« Certainement, ma chère, parce que les sujets qui posent sont toujours l'un ou l'autre. » Vous n'avez qu'à voir l'Académie royale. Tous ces beaux portraits bien luisants de gentlemen en gilet de velours noir, avec les poings demi-fermés qui ressortent sur une table ronde ou sur une console de marbre. Ils sont sérieux, voyez-vous? Et toutes ces dames qui badinent avec leurs petites ombrelles, ou avec leurs petits chiens, ou avec leurs petits enfants. La variété des objets n'y fait rien, le principe reste le même. Elles sont toutes souriantes. Le fait est, ici, Miss La Creevy se pencha à l'oreille de son modèle en baissant le ton de sa voix comme pour lui confier un secret. Le fait est qu'il n'y a que 2 genres de portraits, le sérieux et le riant. Nous réservons toujours d'habitude le sérieux pour des personnages publics, excepté quelques acteurs. Et le riant pour des personnages qui n'ont rien d'officiel. Les dames et les messieurs, par exemple, qui ne tiennent pas autant à se donner un air capable.
Catherine paraissait s'amuser beaucoup de ces distinctions savantes, et Miss La Creevy continuait de peindre tout en causant avec un air de satisfaction inaltérable. Vous avez donc peint un bien grand nombre d'officiers, dit Catherine, profitant d'un moment où Miss La Creevy s'arrêta pour respirer et jetant les yeux autour de l'atelier.
Un grand nombre de quoi, mon enfant ? Demanda Miss La Creevy, levant les yeux de son ouvrage.
Ce sont des portraits de fantaisie, voyez-vous. Ce ne sont pas de vrais militaires, vous comprenez?
Non?
Bénédiction du ciel! Comment voudriez-vous, mon enfant?
Ce sont seulement des commis ou autres qui louent un uniforme pour se faire peindre en militaire et qui le font porter ici dans une valise. Il y a même des artistes qui tiennent à la disposition de leurs clients un uniforme à raison de 9,50 francs de location, y compris le vermillon. Mais ce n'est pas moi qui ferai cela. Je ne regarde pas cela comme un profit légitime.
En disant cela, elle se redressa comme une femme heureuse et fière de ne pas s'abaisser jusqu'à ce genre de séduction pour attraper des pratiques. Après quoi, elle ne s'en remit qu'avec plus d'application à son chevalet. Seulement, de temps en temps, elle relevait la tête pour regarder avec une satisfaction inexprimable l'effet de quelques coups de pinceau qu'elle venait de donner, ou bien elle s'interrompait un instant pour expliquer à Miss Nickleby qu'elle allait passer à quelques détails nouveaux du visage.
« Ce n'est pas, lui disait-elle naïvement, pour que vous vous apprêtiez les traits que je vais peindre, ma chère, mais voyez-vous, nous avons l'habitude d'avertir nos sujets des diverses parties du portrait que nous allons faire, afin que, s'il y a quelque expression particulière qu'ils désirent qu'on leur donne, ils puissent nous prévenir à temps, vous comprenez ? » Ici, un long silence d'une grande minute et demie, après quoi Miss La Creevy reprit.
« Quand est-ce que vous comptez revoir votre oncle ?»«
Je n'en sais rien, en vérité. » « J'avais compté le voir plus tôt, » reprit Catherine. « Cela ne peut pas tarder, j'espère, car il n'y a rien de pis que cet état d'incertitude. »«
C'est un homme qui a de l'argent, n'est-ce pas ?» demanda Miss La Creevy.
« Il est très riche, à ce que j'ai entendu dire. Je n'en sais rien précisément, mais je le crois riche. »«
Oh, vous pouvez en être sûre. Il n'aurait pas l'air si désagréable sans cela. » remarqua Miss La Creevy, qui était un drôle de petit mélange de finesse et de simplicité.
Règle générale, quand un homme a l'air d'un ours, c'est qu'il a une jolie petite fortune.
Ses manières sont un peu rudes, dit Catherine.
Rudes ? Cria Miss La Creevy. Dites donc qu'un porc-épic est un édredon en comparaison. Je n'ai jamais vu de ma vie un vieux loup-garou de sauvage pareil.
« C'est seulement sa manière, je crois, » observa Catherine. « Il a eu des désagréments dans sa jeunesse à ce qu'il me semble avoir entendu dire, ou un caractère a été aigri par quelque malheur. Je serais bien fâchée d'en penser du mal avant d'être sûre qu'il le mérite. »«
C'est bien, c'est très bien, et je vous approuve, » dit l'artiste. « Et à Dieu ne plaise que je vous donne ce chagrin. »
Mais enfin, il pourrait bien... sans seulement s'en apercevoir, vous faire à vous et à votre mère quelques petites pensions qui vous mettraient toutes les deux à votre aise, jusqu'à votre mariage, et qui serait ensuite pour elle une petite fortune. Qu'est-ce que ce serait pour lui, par exemple, qu'un rouleau de 100 louis par an ?
Je ne sais pas ce que ce serait pour lui, dit Catherine avec énergie, mais pour moi, j'aimerais mieux mourir que de l'accepter.
Voyez-vous, cria Miss La Creevy.
« L'idée de dépendre de lui, dit Catherine, empoisonnerait d'amertume tout le reste de ma vie. J'éprouverai, je crois, moins d'humiliation à demander mon pain. »«
Bon !» s'écria Miss La Creevy. « Voilà donc ce parent dont vous ne voulez pas souffrir qu'une personne indifférente dise du mal devant vous. Vous m'avouerez, ma chère, que ce langage doit sembler assez drôle. »«
Je le confesse, dit Catherine d'un ton plus contenu. Je le confesse. »
Je voudrais seulement dire que, sous l'influence des souvenirs d'un temps plus heureux qui n'est plus, je ne voudrais pas
pour tout au monde, me résigner à vivre aux dépens de la générosité de personne, pas plus de lui que d'un autre. »
Miss La Creevy regarda Catherine d'un air narquois, comme si elle n'était pas bien convaincue que ce ne fût pas Ralph lui-même qui fût l'objet de sa répugnance. Mais en voyant l'embarras de sa jeune amie, elle s'abstint de toute observation.
« Tout ce que je lui demande, » continua Catherine, qui ne pouvait retenir ses larmes, « c'est qu'il veuille bien se départir assez de ses habitudes en ma faveur pour me mettre en état à l'aide d'une recommandation, seulement d'une recommandation, de gagner mon pain à la lettre et de rester avec ma mère. Si nous devons jamais goûter quelque bonheur, cela dépendra du succès de mon bien-aimé frère. Mais que mon oncle fasse seulement cela pour moi, et que Nicolas nous dise qu'il est heureux et content, je ne lui en demanderai pas davantage. »
Comme elle cessait de parler, on entendit un bruit léger derrière le paravent qui la séparait de la porte, et quelqu'un cogna contre le lambris.
« Vous pouvez entrer ?» cria Miss La Creevy.
Le visiteur ne se le fit pas dire deux fois, et, s'avançant à l'instant, présenta à la vue de ces dames la forme et les traits de Monsieur Ralph Nickleby en personne, ni plus ni moins.
« Votre serviteur, mesdames, »
dit Ralph, les regardant l'une après l'autre d'un air qui n'était pas tendre.
« Vous parliez si haut tout à l'heure que j'ai eu de la peine à me faire entendre. »
Quand le digne monsieur avait quelque chose sur le cœur de pire encore qu'à l'ordinaire, son tic habituel était de tenir un instant ses yeux presque cachés sous leurs sourcils épais et saillants. Puis, de les développer avec toute leur vivacité perçante. C'est ce qu'il fit en cet instant. Aussi, en le voyant chercher à comprimer le sourire qui écartait malgré lui ses lèvres minces et serrées et qui ridait le coin de sa bouche en plis malicieux, elles sentirent toutes deux que, s'ils n'avaient pas entendu toute leur conversation, ils en avaient au moins entendu déjà trop.
« Comme j'allais monter plus haut, j'ai eu l'idée de commencer par ici, où j'étais presque sûre de vous trouver, »
dit Ralph en s'adressant à sa nièce et regardant le portrait d'un air dédaigneux.
« Est-ce là le portrait de ma nièce, madame ?»«
Oui, monsieur Nickleby, » dit Miss La Creevy d'un petit air éveillé. « Et même, je vous dirai, entre nous, que ce sera un fort joli portrait, quoique ce ne soit pas à moi de me faire des compliments. »
« Ne vous dérangez pas pour me le faire voir, madame, » s'empressa de dire Ralph en se reculant. « Je n'entends rien au portrait. Est-ce bientôt fini ?»«
Mais oui, » répondit Miss La Creevy, portant à la bouche le bout de son pinceau, pour mieux se donner l'attitude de la réflexion. « Avec deux séances encore et... »«
En ce cas, qu'elle vous les donne tout de suite, madame, »
dit Ralph.
« Dès demain, elle n'aura plus du tout de temps à perdre avec ses enfantillages. »«
Le travail, madame. Le travail, il faut que tout le monde travaille. »«
Avez-vous loué votre appartement, madame ?»«
Jusqu'à présent, monsieur, je n'ai pas mis d'écriteau. » »«
Il faut le mettre à l'instant, madame. Une fois la semaine finie, elle n'aura plus besoin d'y demeurer. Ou, si elles y restent, elles n'auront pas de quoi le payer. » « Maintenant, ma chère, si vous êtes prête, nous n'allons pas perdre de temps. »
Monsieur Ralph Nickleby, avec un faux air de bonté qui lui allait encore plus mal que sa brusquerie habituelle, fit signe à la jeune demoiselle de passer devant lui. Puis, s'inclinant gravement pour saluer Miss La Creevy, il ferma la porte et monta l'escalier derrière sa nièce. Là, Madame Nickleby le reçut avec une foule de cérémonies respectueuses. Mais il y coupa court sans façon. Et lui faisant signe de la main qu'il n'en avait que faire, et dans son impatience, il expliqua tout de suite le but de sa visite.
« J'ai trouvé une situation pour votre fille, madame. »«
Merci, » répliqua Madame Nickleby. « Et maintenant, permettez-moi de vous dire que je n'attendais pas moins de vous. » C'est que je disais à Catherine ce matin même, à déjeuner,
« Soyez bien sûre, ma fille, » lui disais-je, « qu'après avoir mis tant d'empressement à pourvoir Nicolas, il n'aura pas de cesse qu'il n'en ait fait autant pour vous. » Voilà exactement ce que je lui disais. Autant que je puis me le rappeler, « Catherine, ma chère, pourquoi donc ne remerciez-vous pas votre... »
« Laissez-moi continuer, madame, je vous prie, » dit Ralph, interrompant sa belle-sœur dans le débordement de ses paroles.
« Catherine, ma fille, laissez donc continuer votre oncle, » dit madame Nickleby.
« Je ne demande pas mieux, maman, »
répondit Catherine.
« Eh bien alors, ma fille, si vous ne demandez pas mieux, vous devriez laisser votre oncle dire ce qu'il a à dire, sans l'interrompre, »
reprit madame Nickleby avec force mouvement de tête et force signe de contrariété.
« Le temps de votre oncle est si précieux, ma chère, que, malgré votre vif désir, »
Désir bien naturel et qui ne peut manquer d'être ressenti par tous les parents attachés à leurs devoirs de famille, qui ont aussi peu vu leur oncle que vous. Malgré votre vif désir, donc, de prolonger le plaisir de le garder plus longtemps avec nous, cependant, nous ne devons pas être égoïstes, mais bien considérer au contraire la nature importante de ses occupations dans la cité.
« Je vous suis bien obligée, madame, » dit Ralph avec un ricanement imperceptible. Le défaut d'habitude des affaires dans votre famille explique apparemment tout ce luxe de paroles inutiles avant de bien conclure.
« J'ai peur que vous n'ayez raison, » répondit madame Nickleby avec un soupir.
« Votre pauvre frère !»«
Mon pauvre frère, madame !» reprit Ralph en l'interrompant avec aigreur. « N'avait pas idée de ce que c'est qu'une affaire. Ou pour mieux dire, il ne savait même pas ce que cela veut dire. »
« J'en ai bien peur, » dit madame Nickleby, portant à ses yeux son mouchoir. « Je ne sais pas, sans moi, ce qu'il aurait fait. »
« Nous sommes, à vrai dire, d'étranges créatures. » Le misérable appât que Ralph, dès la première entrevue, avait jeté à sa belle-sœur avec tant d'habileté, était encore là, pendillant au bout de l'hameçon aux yeux de la pauvre femme. Chaque fois qu'elle se rappelait, dans les 24 heures de la journée, quelque gêne, quelque privation occasionnée par son changement de fortune, aussitôt la vision douloureuse de ses 25 000 francs de dot venait assaillir son esprit, si bien qu'elle avait fini par se persuader que, de tous les créanciers de feu son mari, il n'y en avait pas de plus maltraité ni de plus à plaindre qu'elle. Et pourtant, elle l'avait aimé tendrement pendant bien des années, et elle n'était pas plus égoïste que le commun des hommes, tant il est vrai qu'une pauvreté subite rend l'esprit irritable. Qu'on lui eût donné seulement une petite rente, et ses pensées auraient repris sur le champ leur train accoutumé.
Les regrets ne servent à rien, madame, dit Ralph. De toutes les peines perdues, la plus stérile, c'est d'envoyer une larme courir après un jour qui n'est plus.
C'est bien vrai, dit madame Nickleby en sanglotant. C'est bien vrai.
Puisque vous ressentez si durement, madame, dans votre personne et dans votre bourse, les conséquences de la négligence dans les affaires, dit Ralph. Sans doute vous voudrez pénétrer vos enfants de la nécessité d'y faire plus attention de bonne heure.
Comment ne le ferais-je pas ? Reprit madame Nickleby. Une triste expérience, vous le savez, mon beau-frère. Catherine, ma chère, n'oubliez pas de le dire à Nicolas dans votre prochaine lettre ou de me le rappeler.
Ralph fit une pause de quelques moments, puis se sentant désormais sûr de la mère, dans le cas où la fille ferait des objections à ce qu'il venait proposer, il continua ainsi. « Pour en finir, madame, la situation que j'ai fait mon possible pour procurer à Catherine est chez une marchande de mode couturière en robe. »«
Une marchande de mode ?» cria madame Nickleby.
« Une marchande de mode couturière en robe, madame, » répliqua Ralph. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les marchandes de mode à Londres, qui sont rompues à la routine de tous les besoins et de toutes les fantaisies de la société, font de grandes fortunes, entretiennent des équipages et finissent par devenir des personnages opulents. »
À ce mot de marchande de mode, couturière en robe, l'esprit de Madame Nickleby s'était révolté, en se représentant involontairement certains paniers d'osier doublés de toiles cirées noires qu'elle se rappelait avoir vus trotter de ça et de là dans les rues. Mais, à mesure que Ralph avançait, les petits paniers disparaissaient pour faire place à de grands hôtels du beau quartier, des voitures bourgeoises bien reluisantes et un livre de banque bien rebondi.
Toutes images qui se succédèrent avec une telle rapidité que Ralph avait à peine fini de parler qu'elle agitait la tête avec vivacité, en signe de grande satisfaction, et répétait à chacune de ses paroles
« C'est bien vrai, c'est bien vrai !»«
C'est bien vrai, Catherine, ma chère, ce que dit là votre oncle. » La première fois que votre pauvre papa et moi nous allâmes à la ville après notre mariage, je me souviens que la demoiselle qui m'apporta à la maison un chapeau de paille à la villageoise avait des rubans verts et blancs et une doublure de marceline verte, arriva elle-même dans sa propre voiture au grand galop jusqu'à la porte. C'est-à-dire, je ne suis pas bien certaine que ce fût sa propre voiture, en fait, c'était peut-être un fiacre, mais... Ce que je me rappelle bien, c'est que le cheval tomba raide mort en retournant, car même votre pauvre papa me dit que la bête n'avait pas mangé d'avoine depuis 15 jours.
Cette anecdote, si propre à faire briller l'opulence des marchandes de mode, ne parut pas avoir un grand succès, car la jeune fille tenait la tête penchée devant la narration de sa mère, et Ralph manifestait des symptômes significatifs de son extrême impatience.
« Le nom de la dame, dit-il, est Mantalini, Madame Mantalini. Je la connais. Elle demeure près de Cavendish Square. Si votre fille est disposée à essayer de cette place, je vais l'y mener tout de suite. »
« Est-ce que vous n'avez rien à dire à votre oncle, ma chère fille ?» demanda Madame Nickleby.
« Oh, bien des choses au contraire, mais pas pour le moment. J'aime mieux lui parler quand nous serons seuls. Je ne veux pas lui faire perdre son temps à lui adresser mes remerciements. Je lui dirai en chemin ce que j'ai à lui dire. »
À ces mots, Catherine s'éclipsa pour aller cacher les traces de l'émotion qui faisait couler des pleurs le long de ses joues, et pour se préparer à sortir, pendant que Madame Nickleby amusait son beau-frère en lui faisant toujours pleurante la description détaillée des dimensions d'un piano secrétaire en bois de rose qu'ils avaient possédé au temps de leur splendeur, ou encore des 8 fauteuils de leur salon à pied tourné, à belles housses de perse verte assorties aux rideaux, et qui avait coûté 68 francs 75 centimes la pièce. Était-ce malheureux? Il s'était vendu pour rien. Ces souvenirs intéressants furent arrêtés tout court par le retour de Catherine, qui venait de s'habiller pour sortir, et Ralph, qui n'avait fait que s'agiter et souffrir le martyre pendant toute son absence, ne voulant point perdre de temps, quitta sa belle-sœur sans cérémonie et descendit dans la rue.
« Maintenant, dit-il, donnant le bras à Catherine, marchez aussi vite que vous pouvez, et vous allez voir le chemin que vous allez avoir à faire tous les jours pour aller à vos affaires. »
En même temps, il se mit à conduire d'un bon pas sa nièce dans la direction de Cavendish Square.
« Je vous suis très obligée, mon oncle, » dit la jeune fille après qu'ils eurent fait à la hâte un bout de chemin en silence. « Très obligée. »
« Je suis bien aise de vous entendre parler comme cela, » dit Ralph. « J'espère que vous remplirez votre devoir. »
« Je ferai mon possible pour que vous soyez content, mon oncle, » répliqua-t-elle. « Certainement, je... »
« Allons, ne commencez pas à pleurer, » dit Ralph en grognant. « Il n'y a rien que je déteste comme devoir pleurer. »«
C'est vrai, mon oncle. C'est très ridicule à moi, je le sais. »
« En effet, reprit Ralph, l'interrompant. « Très ridicule et très déplacé. Que cela ne recommence plus. »
Peut-être n'était-ce pas là le meilleur moyen de sécher les larmes d'une femme jeune et sensible, prête à paraître pour la première fois sur un théâtre tout à fait nouveau pour elle dans la vie, au milieu d'étrangers froids et indifférents. Pourtant, je dois dire qu'il réussit à l'instant. Catherine rougit profondément. Sa respiration fut précipitée pendant quelques instants. Puis, elle se mit à marcher d'un pas plus ferme et plus résolu. C'était un contraste curieux à voir que celui d'une jeune provinciale timide, reculant à chaque pas devant la foule qui se pressait dans les rues en tous sens pour laisser passer les plus pressés, et cependant au bras de Ralph, comme si elle craignait de le perdre dans le flot des passants, et de cet homme d'affaires aux traits durs et sombres qui allait tout droit son chemin, poussant les autres du coude, échangeant de temps en temps sur son passage un salut rapide avec quelques connaissances qui se retournaient pour regarder, avec une expression singulière de surprise, sa jolie compagne, et semblait ne rien comprendre à cette association si mal assortie. Mais quel contraste bien plus étrange encore pour celui qui aurait pu lire au fond de ces cœurs qui battaient côte à côte, mettre à nu la charmante innocence de l'un, l'odieuse malice de l'autre, planer sur les pensées pures et simples de la jeune fille à l'âme tendre, et reconnaître avec étonnement qu'au milieu des desseins rusés et des calculs intéressés du vieillard dont elle tenait le bras, il était impossible de démêler un mot ou un signe qui révéla la pensée de la mort ou de la tombe. Et cependant, c'était la vérité. Spectacle plus étrange encore, quoi qu'il soit tous les jours sous nos yeux. Le cœur jeune et brûlant palpitait de mille craintes, de mille inquiétudes, tandis que celui du vieux, roué, corrompu par le monde, pétrifié dans sa cellule, n'avait que les battements réguliers de quelque habile mécanique, sans se laisser déranger dans l'exactitude de ses fonctions par un seul sursaut d'espérance ou de crainte, d'inquiétude ou d'amour pour âme qui vive. « Mon oncle, » dit Catherine quand elle pensa qu'ils devaient approcher leur destination, « il faut que je vous fasse une question. Demeurais-je chez nous ?»«
Chez nous ?» répondit Ralph. « Où est-ce ça ?»«
Je veux dire, chez ma mère, la pauvre veuve, » dit Catherine avec énergie.
« C'est ici qu'à vrai dire vous demeurerez, » répliqua Ralph. « Car c'est ici que vous prendrez vos repas et que vous resterez du matin jusqu'au soir, peut-être même par occasion jusqu'au lendemain matin. »«
Mais le soir, mon oncle, je voulais dire que je ne pouvais pas rester seule. Il faut bien qu'il me reste un endroit que je puisse appeler un chez-nous. Naturellement, il sera où elle est. Vous sentez, rien n'empêche qu'il ne soit très modeste. »
« Ah, rien n'empêche !» dit Ralph, dont l'impatience provoquée par cette observation lui fit précipiter le pas. « Vous voulez dire qu'il faut bien qu'il soit très modeste, rien n'empêche !»« Je crois que cette petite est folle. »«
Mon Dieu !» dit Catherine. « C'est un mot qui m'est échappé sans y faire attention !»«
Je l'espère !» dit Ralph.
« Mais ma question, mon oncle, vous n'y avez pas répondu. »«
Eh bien, je me suis occupé déjà de quelque chose comme cela, » dit Ralph. « Et quoique je ne sois pas précisément de cet avis, cependant, j'ai cherché à satisfaire vos scrupules. Je n'ai parlé de vous que comme d'une ouvrière externe. Ainsi, vous pourrez aller retrouver tous les soirs ce « chez nous » dont vous dites que rien n'empêche qu'il ne soit très modeste. »
C'était déjà quelque chose pour Catherine.
Elle se confondit en remerciements de l'attention de son oncle. Ralph les reçut comme un homme qui sent qu'il les a bien mérités, et ils marchèrent sans dire un mot jusqu'à la porte de la couturière. On voyait s'étaler sur une très grande plaque le nom et le commerce de Madame Mantalini. Et l'on y arrivait par un escalier de toute beauté. Il y avait bien une boutique dans la maison, mais elle était louée à un commissionnaire en essence de rose. Quant à Madame Mantalini, ses magasins étaient au premier étage. Comme on le faisait assez voir aux gens comme il faut de Londres ou de province, derrière ses fenêtres garnies de magnifiques rideaux, l'exposition artistique de deux ou trois chapeaux élégants dans le style le plus nouveau et de quelques costumes somptueux, du goût des plus irréprochables. Un valet en livrée vint ouvrir la porte, et sur la demande de Monsieur Ralph, il les introduisit par une antichambre de belle apparence et un palier spacieux dans le salon de réception, composé de deux vastes pièces où se montrait en étalage un choix infini de robes et d'étoffes superbes. Il y en avait d'arrangées avec goût sur des supports. D'autres étaient étendues avec une négligence apparente sur des sofas. D'autres encore jetées sur le tapis ou bien suspendues à la glace des psychés ou encore se confondant de quelque autre manière avec l'aveuglement riche et varié qu'on avait multiplié avec profusion. C'est là qu'ils attendirent assez longtemps pour lasser la patience de Monsieur Ralph, qui ne paraissait pas regarder avec beaucoup d'intérêt toute cette friperie éblouissante, et qui allait finir par sonner quelqu'un, lorsque tout à coup un gentleman, entr'ouvrant la porte, passa la tête et la retira avec la même vivacité en voyant du monde.
« Ici donc, holà !» cria Ralph. « Qui est-ce qui est là ?»
À ce son de voix, qui lui était bien connu, la tête reparut. Et la bouche de cette tête faisait voir une longue rangée de dents d'une grande blancheur. Prononça, sur un ton doucereux, ces mots. « Diavolo ! Tiens, Nickleby !» Après cette première explosion de sentiments, le gentleman s'avança et vint donner à Ralph une poignée de main avec beaucoup d'empressement. Il portait une robe de chambre splendide, un gilet et un pantalon à la hussarde du même dessin, un mouchoir de soie lilas, des pantoufles d'un vert éclatant et une chaîne de montre assez longue pour faire le tour de sa taille. Son costume se complétait d'une paire de favoris et d'une moustache teinte en noir et frisée avec élégance.
« Sapristi, j'espère que ce n'est pas à moi que s'adresse votre visite !» dit le gentleman en donnant une tape sur l'épaule de Ralph.
« Non, pas encore !» dit l'autre d'un air sarcastique.
« Ha ha, sapristi !»
Et le gentleman, en tournant sur ses talons pour rire avec plus de grâce, se trouva face à Catherine Nickleby, qui était là, près de son oncle.
« Ma nièce !» dit Ralph.
« Ah oui, je me rappelle !» dit le gentleman
en se donnant sur le nez une chiquenaude comme pour se punir de son défaut de mémoire.
« Sapristi, je me rappelle l'objet de votre visite. Venez par ici, Nickleby. Et vous, ma belle demoiselle, voulez-vous me suivre ?»«
Elles me suivent toutes, Nickleby. Elles n'y manquent jamais, sapristi !»
Tout en donnant ainsi carrière à son imagination folâtre, le gentleman les conduisit à un petit salon particulier au second étage. Il n'était guère moins richement meublé que l'autre. Seulement, la présence d'une cafetière d'argent, d'une coquille d'œuf et d'une tasse de porcelaine presque vide semblait annoncer que le gentleman venait d'y faire son déjeuner.
« Asseyez-vous, ma chère !»
dit-il à Miss Nickleby en la déconcertant tout d'abord par la hardiesse de son regard, puis après par une grimace de satisfaction peu rassurante.
Pour arriver à ce maudit étage, il faut se mettre tout hors d'haleine. C'est comme un infernal vestibule du firmament. J'ai peur d'être obligée de déménager, Nickleby.
Je l'espère bien,
répliqua Ralph, le regardant d'un air presque menaçant.
Quel diable d'original vous faites, Nickleby, dit le gentleman. La plus diabolique de bonnes têtes, le plus singulier mélange de vieilles monnaies d'or et d'argent que j'ai jamais vu de ma vie, sapristi!
Après avoir adressé ses compliments à Ralph, le gentleman sonna, toujours les yeux fixés sur Mademoiselle Nickleby, jusqu'à ce qu'il eût donné au domestique, qui se présenta, l'ordre de demander sa maîtresse sur le champ. Après quoi, il recommença ses exclamations jusqu'à l'apparition de Madame Mantalini. La couturière était une femme de figure égrillarde, richement vêtue, d'assez bonne mine, mais beaucoup plus âgée que le monsieur au pantalon à la hussarde. Il n'y avait pas plus de 6 mois qu'elle l'avait épousé. Le nom de son mari était à l'origine Mantel. Mais, par une transition facile, il s'était changé bientôt en celui de Mantalini. La dame, ayant observé avec beaucoup de justesse qu'un nom anglais lui ferait un tort sérieux dans son commerce, il n'avait apporté à sa femme en mariage que sa paire de favoris. Capital précieux sur lequel il avait vécu jusque-là assez agréablement pendant nombreuses années. Il venait de s'enrichir, après de longues et patientes expériences, d'une paire de moustaches qui promettait de lui assurer une sorte d'indépendance. Jusqu'à présent, la seule part qu'il prit dans les travaux de la maison s'était bornée à dépenser l'argent que gagnait sa femme. Et, de temps en temps, quand on était à court, à monter en voiture pour aller faire escorter chez Ralph Nickleby, moyennant finance, les billets des pratiques. « Ah ça, mon cœur !» dit Mantalini. « Qui diable vous a donc tenu si longtemps ?»«
Je ne savais même pas que Monsieur Nickleby fût ici, mon cher !» lui répondit madame. « Alors, idole de mon âme, il faut que ce valet soit un diable d'infernal animal. »
« Mon cher, répondit madame, c'est tout à fait votre faute. »«
Ma faute ? Joie de mon cœur !»«
Certainement, fit-elle, mon très cher. Vous savez bien que vous n'en tirerez jamais rien avant de lui avoir administré quelques bonnes corrections. »
Une correction ? Délice de mon âme !
Je crois bien, et soyez sûr qu'il a besoin qu'on lui parle un peu ferme, dit madame en faisant la moue.
Allons, ne vous tourmentez pas, on lui flanquera des coups de cravache jusqu'à ce qu'il crie comme un damné.
Sur cette promesse, monsieur Mantalini embrassa madame Mantalini, et pour finir cette comédie, madame Mantalini tira d'une manière aimable les oreilles de monsieur Mantalini. Après quoi, on passa à l'affaire en question.
Maintenant, madame, dit Ralph, qui n'avait pas cessé de regarder cette scène avec une expression de mépris peu commune. Voici ma nièce.
Ah, c'est elle, monsieur Nickleby, répliqua madame Mantalini, toisant Catherine des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Parlez-vous français, ma petite ?
Oui, madame, répondit Catherine sans oser lever les yeux, car elle sentait que ceux de son impudent admirateur devaient être fixés sur elle.
Comme une damnée de française ? Demanda le mari.
Miss Nickleby ne fit pas d'autre réponse à cette question que de tourner le dos au questionneur, comme pour se disposer à répondre à Madame Mantalini si elle avait quelque chose à lui demander.
« Nous avons 20 jeunes dames constamment employées dans cet établissement, » dit la maîtresse couturière. « Vraiment, madame ? » reprit Catherine avec timidité. « Oui, il y en a qui sont diablement jolies encore, » dit le patron. « Mantalini !» s'écria sa femme d'un air imposant. « Femme adorable !» dit Mantalini. « Mantalini, voulez-vous me briser le cœur ?» « Dieu m'en garde, je ne le ferai pas pour 20 000 hémisphères peuplés de petites danseuses de l'opéra, » répondit Mantalini qui se sentait en verve.
Eh bien, c'est pourtant ce que vous ferez, si vous continuez de parler comme vous le faites, dit sa femme. Qu'est-ce que vous voulez que M. Nickleby pense de vous en vous entendant ?
Oh, rien, madame, rien, répondit Ralph. Je connais son aimable caractère et le vôtre. Ce sont de simples petites saillies qui ne font que donner un peu plus de piquant à votre vie journalière. Des querelles d'amoureux dont la douceur ajoute encore à ces joies domestiques qui promettent de durer si longtemps. Voilà tout.
Si l'on pouvait supposer qu'une porte de fer en colère contre ses gonds prit la ferme résolution de peser sur eux de tout son poids en s'ouvrant avec une lenteur obstinée pour les réduire en poudre dans cette lutte, la plainte des gonds opprimés ne rendrait pas un son plus désagréable que la voix amère et rude dont Ralph prononça ce compliment ironique. Monsieur Mantalini lui-même en sentit l'influence et, se retournant tout effrayé, s'écria « Quel diable d'abominable croassement !»
Vous ne ferez pas attention, s'il vous plaît, aux plaisanteries de Monsieur Mantalini, dit la dame en s'adressant à Mademoiselle Nickleby.
Je n'y fais pas attention du tout, madame, dit Catherine avec calme et mépris.
Monsieur Mantalini n'a pas du tout affaire aux jeunes dames de l'établissement, continua-t-elle en lançant un regard à son mari. S'il en a vu quelques-unes, ce ne peut être qu'en les rencontrant dans la rue, quand elles viennent travailler ou qu'elles s'en retournent chez elles. Mais jamais ici. Il n'est même jamais au magasin. Je ne veux pas de cela.
Combien d'heures avez-vous l'habitude de travailler par jour ?
Je n'ai jamais eu l'habitude de travailler régulièrement, madame, reprit Catherine baissant la voix.
Elle n'en travaillera que mieux maintenant, dit Ralph, qui n'était pas fâché de placer ce mot, de peur que l'aveu de sa nièce ne vînt nuire aux négociations.
« Je l'espère, » continua Madame Mantalini. « Voici nos heures. De 9 à 9, et même plus quand nous sommes pressés de besogne. Mais alors, je paye un supplément en sus. »
Catherine s'inclina pour faire comprendre qu'elle avait entendu les conditions et qu'elles lui convenaient.
« Quant au repas, c'est-à-dire le dîner et le thé, vous les prendrez ici. » Vos gages pourront monter de 6 francs 25 à 8 francs 75 par semaine. Mais je ne puis pas encore les fixer d'une manière certaine avant d'avoir vu ce que vous savez faire.
Catherine répondit encore par un signe de tête.
Si vous êtes prête à venir, dit Madame Mantalini, vous ferez bien de commencer lundi matin à 9 heures précises. Et Mademoiselle Nack, ma première demoiselle, recevra mes instructions pour vous essayer d'abord à quelque ouvrage facile. Avez-vous encore quelque chose à me demander, monsieur Nickleby ?
Plus rien, madame, dit Ralph en se levant.
Alors je crois que voilà tout ?
Après cette conclusion naturelle, madame Mantalini regarda du côté de la porte, comme une personne qui voudrait bien s'en aller, mais qui ne se souciait pas de laisser à monsieur Mantalini le soin de faire seul les honneurs de sa maison, en conduisant les visiteurs jusqu'au bas de l'escalier. Ralph l'attira d'inquiétude en prenant son congé sans délai, pendant que Madame Mantalini lui faisait une foule de reproches gracieux de ne pas venir les voir, et que Monsieur Mantalini maudissait avec force jurons la hauteur des escaliers en les reconduisant, dans l'espérance qu'en entendant ces anathèmes, Catherine aurait au moins la curiosité de retourner la tête. Mais c'était un espoir qu'il n'eut pas le bonheur de voir réalisé.
« Voilà, » dit Ralph, quand ils furent dans la rue. « Maintenant, vous êtes pourvu. »
Catherine allait l'en remercier encore quand il l'arrêta en lui disant
« J'avais eu quelque idée de placer aussi votre mère à la campagne dans un joli pays. »
Il avait droit de présentation dans une maison de charité sur les confins de Cornouailles et il n'était pas rare qu'il pût y disposer quelques places vacantes.
Mais, en voyant votre désir de rester ensemble, je me suis décidée à prendre un autre parti pour elle. Elle a un peu d'argent.
Oh, bien peu, répondit Catherine.
peu va loin, répliqua Ralph, quand on sait le ménager. Elle va voir combien de temps elle pourra le faire durer, ne payant pas de loyer. Vous quittez votre logement samedi ?
C'est vous qui nous l'avez dit, mon oncle.
Oui, j'ai une maison qui m'appartient et qui n'est pas occupée pour le moment. Je peux vous y mettre jusqu'à ce qu'elle se loue. Et après, si rien n'empêche, peut-être en aurai-je une autre. C'est là qu'il vous faudra demeurer.
Est-ce loin d'ici, monsieur ? Demanda Catherine.
Assez loin, dit Ralph. C'est à l'autre bout de la ville, à East End. Et je vous enverrai mon commis samedi à 5 heures du matin pour vous y conduire. Au revoir. Vous savez votre chemin. Toujours tout droit.
Il serra froidement la main de sa nièce, la quitta au haut de Regent Street et descendit par une rue de traverse pour aller gagner de l'argent. Catherine s'en revint tristement à leur appartement du Strand.